Kaminski, bonjour. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous pensez de la situation actuelle en France? Il y a l'administration de Macron qui s'est installée aux commandes et il se trouve que on est à l'heure du premier bilan adressé, comme on est à la fin de l'année 2017, l'année 2018 commence. Et donc, vous, en tant qu'expert en international et spécialiste de la France, vous sauriez peut-être nous donner votre commentaire sur ce premier bilan. On vous écoute très attentivement, Monsieur Rubinski.
Le président de la République vient de fêter ses 40 ans. C'était hier, donc le 21 décembre. Et ça correspond, il faut le dire, par hasard historique, avec l'anniversaire de Joseph Staline. Entre les deux, il y a une différence immense. Mais le fait que le président, si jeune, le plus jeune depuis donc les deux Napoléons, il peut être sans doute satisfait du bilan de 7 mois de présence à l'Élysée pour des raisons évidentes, c'est-à-dire les réformes qui étaient déjà engagées et adoptés ont en gros été acceptés par la majorité de l'opinion en dépit, disons, de résistance et de mécontentement d'un certain nombre de catégories d'électeurs qui ont voté pour lui au second tour des élections présidentielles. Et qui n'ont pas apprécié le fait que leurs intérêts étaient plus ou moins lésés par le programme présidentiel et par les réformes qui ont vu le jour depuis donc plus de 6 mois. Ça a été d'ailleurs, ça s'est traduit d'ailleurs pendant les mois d'été. Par une baisse sensible du score présidentiel dans les sondages, à peu près d'un tiers au moins. Mais aujourd'hui, paraît-il, les sondages accusent une remontée. Il y a plutôt le mélange de satisfaction et d'interrogation. Et ce qui d'ailleurs arrange, si je comprends bien, le chef de l'État, qui appelle de le juger, non pas sur quelques mois, mais sur le quinquennat tout entier, et éventuellement, pour le second qui pourrait suivre. Qu'est-ce qui, a été fait, depuis? Et tout d'abord, il y a eu la loi sur la moralisation de la vie publique. Une loi qui a été saluée par l'opinion pour des raisons évidentes. Deuxièmement, il y a eu une réforme beaucoup plus douloureuse et contradictoire, c'est-à-dire la révision du code de travail qui a massablement réduit la capacité disons, de marchandage de la part des syndicats. Les protestations dans les médias et surtout dans la rue étaient, somme toute, assez limitées par rapport à ce qui était le cas sous le quinquennat précédent, avec la loi El Khomri. Mais l'essentiel, évidemment, ce qui a été déterminant dans le programme réformateur du président, c'est sans doute sa politique budgétaire, axée sur la réduction des dépenses public, compte tenu des déficits persistants depuis déjà 1974. Et ça, c'est une situation qui s'est traduite par l'augmentation considérable de la dette publique, 97% de PNB. Et pour le président, il le dit quand il le pense, qu'il considère que cette situation est intenable et que la France doit changer non seulement la politique de dépenses publiques, mais surtout l'équilibre budgétaire. Et plus généralement, changer considérablement la structure et le volume des impôts. Donc, les économies budgétaires, d'une part, qui ont touché les intérêts, par exemple, des territoires, c'est-à-dire des mairies et d'autres, et un certain nombre de contribuables, notamment d'âge avancé, des retraités. Mais en fait, les objectifs du président, c'est d'assainir la situation budgétaire pour relancer la croissance et donc réduire dans l'avenir suffisamment proche le chômage, c'est-à-dire qui est devenu pour l'économie française et pour la société française inacceptable au niveau actuel. Il le promet pendant 2 ans. Mais déjà, on peut dire que l'évolution de la croissance est plutôt favorable, avec 1,9% de croissance pour l'année 17, c'est déjà considérable par rapport à la stagnation qui était le fait depuis la grande récession 2008-2009. En quelque sorte, la conjoncture internationale joue pour le président. Ça, il n'y a pas de doute. De la part des forces politiques opposé au parti présidentiel qui détient une majorité considérable à l'Assemblée nationale. Les oppositions sont d'abord divisées et minoritaires, que ce soit l'extrémité à droite et à gauche, le Front National et le Front Insoumis, ou les Républicains qui se sont donnés un nouveau président, M. Wauquiez, mais qui n'a pas encore trouvé le créneau suffisamment solide et prometteur pour l'avenir. Donc le président s'engage actuellement sur d'autres réformes. Éducation, très nécessaire mais explosive, de retouche de la Constitution, c'est-à-dire réduction du nombre de parlementaires, du nombre de mandats exercés, etc. Sans aucun doute, toutes ces réformes auront des difficultés, mais somme toute, à ce qu'il paraît, les prochaines élections européennes qui auront lieu dans un an et demi ne peuvent pas mettre en doute la capacité et la volonté du président d'aller dans la même voie. Et quant à la politique étrangère, qui pour le président, c'est normal, est indissociable de son programme réformateur.
Absolument.
À l'intérieur, c'est la rénovation, la modernisation de l'Union européenne sur la base du couple franco-allemand. Le programme est annoncé dans le discours à la Sorbonne et même avant en Grèce. Ce sont des réformes considérables, mais à quel point les partenaires de la France sont prêts la suivre dans cette voie, c'est une question encore ouverte. C'est-à-dire que les élections allemandes ont démontré que la solidité du partenaire principal d'Emmanuel Macron, chancelière Merkel, est affaiblie. Elle est déjà, disons, en quelque sorte, dans sa dernière séquence, le quatrième mandat. Coupler, en quelque sorte, le programme réformateur à l'intérieur de la France, d'une part, et dans le cadre de l'Union européenne, ce sera peut-être la tâche la plus importante et la plus difficile qui attend le président. Et le dernier point, c'est-à-dire la politique française en dehors de l'Union européenne. En Afrique, au Moyen-Orient et ailleurs, c'est évidemment la tentative de mettre la France dans l'avant-garde pour résoudre les problèmes globaux dans notre temps, notamment le climat. On voit que la position de l'actuel président des États-Unis n'est pas tout à fait comment dirais-je, ne partage pas
En harmonie.
l'enthousiasme du président en ce qui concerne la politique climatique. Deuxièmement, les actes du président Trump, tels que la mise en question de l'accord avec l'Iran nucléaire et d'autres choses créent une sorte d'incertitude. D'incertitude qui pèse sur le programme international du président. Dans ces conditions, je crois que le dialogue avec la Russie s'impose comme élément d'équilibre, d'équilibre qui manque peut-être ailleurs. Le dialogue ouvert par la visite de M. Poutine, président Poutine à Versailles, a ouvert la voie pour trouver les moyens de dépasser un certain nombre de conflits qui se sont accumulés depuis le printemps arabe, notamment l'affaire de Libye et de Syrie surtout. Là, il y a un progrès, pas encore extraordinaire, mais le dialogue continue. Et il y a l'Ukraine. L'Ukraine, le problème de sanctions et l'avenir du format de Normandie initié par le prédécesseur de l'actuel président. Là, les progrès sont encore à attendre, c'est évident. Mais le dialogue continue. La preuve, c'est la visite actuelle, dans les jours, hier, avant-hier, j'ai assisté à la présentation, au discours du ministre de l'économie et des finances français, Bruno Le Maire, qui était optimiste à l'école supérieure de l'économie à Moscou. Il était somme toute optimiste et dans les perspectives notamment de la visite du président qui est invité officiellement depuis le 31 octobre dernier. Être l'invité d'honneur du Forum économique international de Saint-Pétersbourg au mois de mai. D'ici peu, le président se rendra en Chine. Il a fait déjà plusieurs voyages au Moyen-Orient et en Afrique, et sans parler de l'Europe, de l'Union européenne. Maintenant, c'est l'heure des puissances mondiales. Il va donc en Chine, ensuite la Russie, Le voyage aux États-Unis reste évidemment suspendu sous les, avec les problèmes climatiques et autres spécifiques pour la position de l'actuel maître de la Maison-Blanche. Et donc, dans ces conditions, on peut espérer que les rapports franco-russes traditionnels seront un élément stabilisateur pour la situation internationale dans son ensemble, notamment en Europe et dans les points chauds tels que la lutte contre le contre-terrorisme et la recherche d'une solution politique au Moyen-Orient, notamment en Syrie, d'une part, et autour de l'Ukraine, de l'autre. Voilà.
Monsieur Romeski, merci beaucoup pour ce commentaire parfaitement exclusif. Donc là, on a jeté un regard circulaire sur le problème de l'international aussi bien que du national, enfin du secteur national. Et 11 ans s'égrèrent, et ben, j'espère qu'on pourra avoir de vos compétences pour interaffaires.ru, le magazine du ministère des Affaires étrangères, encore. Merci beaucoup au nom de la
De
rédaction.
rien, au revoir.
Au revoir.